Ce matin, j'aimerais considérer avec vous une partie peu abordée de l'œuvre de Jésus, à savoir son intercession pour nous. On attend que la technique mette le diaporama. Comme au bon vieux temps. Ça charge. Ouais. C'est un peu en panne. Bon. Peut-être supprime-le et remets-le et puis tu le mettras quand tu peux. Voilà. Donc je vous disais que nous allons aborder cette partie de l'œuvre de Jésus peu abordée, qui est son intercession pour nous, comme nous pouvons le lire par exemple dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 7, versets 24 et 25. Mais lui, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. On trouve des choses similaires dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 33 et 34. Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Jésus intercède pour les siens. Il intercède pour celles et ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Quand nous parlons de l'œuvre de Jésus-Christ, nous pensons à juste titre tout d'abord à son sacrifice à la croix. Et puis nous pensons au tombeau vide, à la résurrection. Voilà, je récupère, donc voilà, Hébreux, Romains, nous en sommes là pour l'instant. Nous pensons donc à la croix, nous pensons au tombeau vide, et enfin, dans un souci d'être le plus complet possible, nous affirmons que tout est accompli. Cette parole de la croix. Et c'est parfois là, pas toujours, mais parfois là que s'arrête notre compréhension de l'œuvre de Jésus. Cependant, l'œuvre de Jésus ne s'est arrêtée ni au calvaire, ni au matin de Pâques. Avant de revenir un jour pour juger le monde et chercher les siens selon sa promesse, Jésus intercède pour eux aujourd'hui. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, Jésus est à l'œuvre aujourd'hui. Alors bien sûr, l'œuvre expiatoire, celle qui paye le prix pour nos péchés, celle-là, elle est accomplie. Elle est pleinement achevé par la mort et la résurrection de Jésus. Mais le rôle sacerdotal, c'est-à-dire le rôle de prêtre, son rôle de prêtre pour les siens, continue encore aujourd'hui. En effet, nous lisons dans les psaumes, je n'ai pas noté les versets, mais on pourrait en trouver plusieurs, dans les psaumes et dans l'Épître aux Hébreux, que Jésus est sacrificateur pour toujours, disent les textes, selon l'ordre de Melchisédek, sacrificateur pour toujours. Et ainsi, c'est par son intercession pour les siens, en nous représentant et en plaidant notre cause, que Jésus exerce encore aujourd'hui son sacerdoce. Pour essayer d'avancer un peu dans notre compréhension de l'intercession de Jésus pour les siens, et avant d'aborder son contenu, j'aimerais faire deux remarques importantes qui sont aussi deux caractéristiques de l'intercession de Jésus. Et ce que j'aimerais souligner en premier, c'est que l'intercession de Jésus pour les siens est empreinte d'autorité. C'est avec autorité que Jésus intercède pour les siens. Et l'idée à laquelle j'aimerais tordre le cou ici, si elle existe, est celle du Fils suppliant le Père, du Fils à genoux devant le Père, mendiant une grâce pour les siens, implorant des faveurs pour les siens. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'intercession du Fils auprès de son Père pour ses disciples est pleine d'autorité. Et ce, pour au moins deux raisons que je vais rapidement nommer. Premièrement, parce qu'il est le Fils. Ce qui veut dire que lui et le Père sont un. Voilà ce que ça veut dire. Ils sont de même essence, c'est-à-dire d'essence divine, l'un et l'autre. Le Fils est l'égal du Père, de ce point de vue-là. Il est vrai que dans le plan du salut, leurs rôles sont différents. Mais pour ce qui est de leur personne, le Père et le Fils, tout comme l'Esprit-Saint, sont sur un pied d'égalité. Et la requête du Fils à son Père est donc une requête d'égal à égal, et non pas comme nous, ou pour nous, de créature à créateur. Notre intercession est et restera toujours soumise à la volonté de Dieu. Celle de Jésus est empreinte d'autorité car il est Dieu. C'est la première raison. Deuxièmement, l'intercession du Fils est empreinte d'autorité parce qu'elle repose sur l'œuvre expiatoire parfaitement accomplie. En d'autres mots, elle repose sur le fait que tout est accompli et parfaitement accompli pour notre salut. Et nous pourrions dire d'une certaine manière que Jésus s'est acquis le droit, s'il fallait que ce soit le cas, s'est acquis le droit d'être exaucé par son Père en menant à la perfection l'œuvre de salut qu'il lui avait confiée. Et c'est la raison pour laquelle Jésus peut dire cela dans la prière sacerdotale de Jean 17. « Père, je veux, dit Jésus. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Jésus ne dit pas « Père, est-ce qu'il serait possible que tu m'accordes cela pour… » Non, non, « Père, je veux. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Son intercession est empreinte d'autorité. C'est la première remarque. La deuxième remarque que j'aimerais faire concerne l'efficacité de l'intercession de Jésus. C'est une intercession efficace à 100%. 100%. Et si l'intercession de Jésus est parfaitement efficace, c'est parce qu'elle est empreinte d'autorité, comme nous venons de le voir. Les deux sont étroitement liés. En fait, si l'intercession du Fils est infaillible, c'est parce qu'il connaît parfaitement le Père, parce qu'il connaît sa volonté et qu'il sait que le Père l'exauce toujours, puisque lui et le Père sont un. Souvenons-nous ici des paroles de Jésus devant le tombeau de Lazare dans Jean au chapitre 11. Versets 41 et 42, « Ils ôtèrent donc la pierre. » Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus savait, Jésus sait que le Père l'exauce toujours. Son intercession est efficace à 100%. Mais alors, que demande Jésus pour les siens? Ce sera notre troisième point. Avant d'apporter quelques éléments de réponse à cette question, que demande Jésus pour les siens, j'aimerais tout d'abord nous rappeler, cela devrait être pour nous une source de grande joie et de grand réconfort, que Jésus nous comprend toujours parfaitement. Peut-être que nous en doutons parfois, mais en fait, Jésus nous comprend toujours parfaitement. Il nous comprend de l'intérieur. Il comprend notre humanité. Il s'en est revêtu. Et donc, il sait très bien ce que c'est qu'être un homme, en tout cas être humain, j'allais dire un homme ou une femme, non, mais d'être humain, d'être confronté aux limites de l'humanité, parce qu'il était pleinement homme. L'Épître aux Hébreux le souligne bien quand elle dit que Jésus peut compatir à nos faiblesses, qu'il n'est pas insensible à nos faiblesses, parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché, et que c'est donc avec assurance, avec confiance que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, pour y obtenir miséricorde et pour y trouver grâce, que nous pouvons nous approcher de celui qui nous comprend parfaitement, de celui qui intercède en connaissant nos besoins et en comprenant nos besoins et nos épreuves, de celui qui intercède pour nous avec autorité et efficacité. Mais alors, que demande Jésus pour les siens ? Il y a principalement deux axes à l'intercession de Jésus pour nous. Son intercession pour le salut des siens, c'est un premier axe. Et puis son intercession pour que les siens puissent vivre conformément à la vocation de leur salut. C'est le deuxième axe. Et c'est plus précisément ce deuxième axe que j'aimerais maintenant souligner dans la prière dite sacerdotale de Jean chapitre 17. John Murray, un théologien qui est maintenant décédé en 1975, écrit ceci, que cette prière de Jésus, il écrit sur cette prière de Jésus que l'intercession de Christ dans Jean 17 est comme l'index de son contenu, comme l'index du contenu de son intercession au ciel. Voilà, j'y arrive. Comme l'index du contenu de son intercession au ciel. Je vois vos visages qui froncent les sourcils. Ça veut simplement dire qu'il est probable que ce que Jésus demande à son Père dans cette prière de Jean 17, il le demande encore aujourd'hui, pour les siens, et donc pour nous, si nous sommes en Christ. Il y a trois partie à cette prière de Jean 17, la première partie où Jésus prie pour lui-même, la deuxième partie où il prie pour les disciples présents et puis la dernière partie où il prie pour ses disciples futurs. Et les versets qui vont nous intéresser sont les versets 9 à 26 que je vais lire maintenant. Vous pouvez suivre dans vos Bibles ou alors à l'écran, Jean 17, donc je lis les versets 9 à 26. C'est donc Jésus qui prie et qui dit « C'est pour eux que je prie. » Donc les disciples présents, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné, je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi et je parle ainsi dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Que demande Jésus pour ses disciples? Il demande essentiellement quatre choses dans cette prière que j'aimerais passer en revue avec vous. Quatre choses pour ses disciples présents et pour ses disciples à venir, et il n'y a en réalité pas vraiment de distinction à faire entre les deux. Premièrement, nous voyons Jésus intercéder pour la protection de ses disciples. Verset 11, Père Saint, garde-les en ton nom. Verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. La protection dont il est question ici est avant tout spirituelle. Croire en Dieu, croire en Jésus, être au bénéfice de l'intercession de Jésus pour moi, ce n'est pas une assurance tout risque contre les pépins de la vie. Ce n'est pas la garantie qu'aucune tuile ne va tomber sur la tête. Ce n'est pas la certitude que rien de fâcheux ne m'arrivera jamais. Non. Si les chrétiens sont au bénéfice de bien des grâces, nous en avons eu un bel exemple encore ce matin. Bien des grâces de la part de Dieu. Ils vivent néanmoins solidaires du reste des hommes. Solidaire en humanité, solidaire des joies et des peines liées à cette humanité que nous partageons et qui est marquée par le péché. La protection dont il est question ici est donc avant tout l'assurance que Dieu me tiendra toujours dans sa main, que rien ni personne ne pourra jamais me ravir de sa main, de la main de mon Père céleste. Que rien ni personne ne pourra jamais me séparer de son amour. Voilà ce dont il est question ici. Quelle paix pour notre âme que de savoir que ma protection spirituelle est garantie par l'intercession du Christ. C'est ce qu'on appelle aussi par ailleurs l'assurance du salut, tout simplement. La deuxième chose que nous voyons Jésus demander pour ses disciples, c'est leur sanctification. Sanctifie-les par la vérité, verset 17, ta parole est la vérité. L'utilisation du mot sanctification m'amène à faire une précision. Quand on parle de sanctification, il faut distinguer entre deux choses. Et si on ne le fait pas, on finit par plus très bien comprendre comment ça fonctionne. Il faut distinguer entre la sanctification dite de principe et la sanctification dite progressive. Dès l'instant où nous acceptons la grâce de Dieu, nous appartenons à Dieu. Nous sommes donc saints, mis à part pour Dieu. Et c'est ainsi, par exemple, que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, « Vous avez été sanctifiés. » C'est fait. « Vous avez été sanctifiés. » Et ainsi, dans ses lettres, l'apôtre Paul s'adressait aux saints qui étaient à Corinthe, aux saints qui étaient à Éphèse, qui étaient dans toutes les villes, Philippe, etc. Cet aspect de la sanctification est celui que nous appelons de principe. Il est ponctuel, il est au début de notre chemin avec le Christ et il est définitif. Nous sommes mis à part pour Dieu. Mais ce n'est pas tout. Quand on parle de sanctification, il y a aussi quelque chose de progressif auquel nous devons travailler. Et c'est pourquoi, à côté de ces textes qui affirment que nous sommes saints, nous avons d'autres textes qui nous appellent, par exemple, à rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, Hébreux 12, 14, à devenir saints dans toute notre conduite, 1 Pierre 1, 15, ou à être toujours davantage sanctifié, Apocalypse 22, 11. En fait, cet aspect progressif de la sanctification auquel nous collaborons avec le Saint-Esprit correspond tout simplement à notre lutte contre le péché dans notre vie. C'est de cela dont il s'agit. Notre lutte contre le péché est donc à la formation de Christ en nous. Grandir à l'image de Christ. Chers amis, Jésus prie pour notre sanctification. Il prie avec efficacité pour notre sanctification. Cela veut dire que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte contre le péché. Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls. Nous pouvons toujours compter sur son secours, compter sur l'aide du Saint-Esprit, compter sur l'intercession de notre Sauveur et Seigneur. Et il y a dans cette requête pour notre sanctification, alors ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est la perspective, la garantie que Dieu va achever la bonne œuvre qu'il a commencée en chacun de ses enfants. Il y a dans cette requête pour notre sanctification la certitude que Dieu nous amènera pour le jour de Jésus-Christ à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il y a l'assurance qu'un jour nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est l'efficacité de l'intercession de Jésus qui nous fait comprendre cela. Le combat sera gagné. Pour l'instant, on galère. Mais un jour, ça sera acquis pour l'éternité. Quelle paix pour notre âme. De savoir que la victoire complète sur le péché dans notre vie est un horizon certain par Christ, par son intercession. J'aimerais terminer brièvement ce point sur la sanctification en attirant votre attention sur le moyen privilégié souligné dans le texte dont Dieu se sert pour nous sanctifier, sa parole qui est la vérité, sa parole qui est la vérité. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Si nous attachons autant d'importance à la Bible et à son étude dans notre vie personnelle, dans la vie de l'Église, si nous plaçons son enseignement au cœur de notre vie d'Église, au cœur de nos vies personnelles, c'est parce que nous croyons en effet que la parole de Dieu, que la Bible est le moyen privilégié dont Dieu se sert pour nous faire grandir en lui, pour nous amener à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour nous sanctifier. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous transforme, qui rentre au plus profond de nous pour nous transformer. Troisième demande de Jésus pour ses disciples concerne leur unité. Jésus intercède pour leur unité, pour notre unité si nous sommes en Christ. Versets 20 à 23, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Chers amis, pourquoi est-ce que l'unité des chrétiens est possible? Je n'ai pas dit facile, hein, j'ai dit possible. Ce n'est pas parce qu'on est tous pareils et qu'on pense tous exactement la même chose sur tous les sujets. Hein? Ça pourrait peut-être faciliter une forme d'unité. Non. Si nous pouvons être unis, c'est parce que l'unité nous est donnée par le Père et par le Fils. Et elle est une image de celle qui existe entre le Père et le Fils. Si nous pouvons être unis, c'est parce que Jésus prie pour cela et que sa prière est efficace à 100%. Alors, quelle est notre part, s'il y en a une? Notre part n'est clairement pas de fabriquer, de faire cette unité, nous en serions d'ailleurs bien incapables. Notre part, c'est de la préserver. C'est de tout mettre en œuvre pour la conserver. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 3, « Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Et oui, parfois, il faut se supporter parce qu'on est tellement différents. Hein, on ne va pas prétendre que ce n'est pas le cas. Parfois, il faut faire des efforts. C'est normal, c'est la vie. « Supportez-vous les uns les autres dans l'amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Si nous sommes chrétiens, nous sommes unis en Christ. C'est une réalité. Ça nous a été donné. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Et il intercède pour cela. Alors, pour l'instant, c'est mêlé au péché. Mais cette unité, elle nous est acquise. Et un jour, nous serons parfaitement unis, pour toujours, sans plus rien pour interférer dans la présence de Dieu. Notre part, donc, notre rôle est de travailler à la conservation de cette unité, de chérir ce don précieux qui nous a été fait, de tout mettre en œuvre pour que rien, jamais, n'y fasse obstacle durablement. La quatrième demande que nous trouvons dans la prière de Jean 17 concerne le passage ou le partage de l'éternité dans la gloire. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Cette requête, elle rejoint en partie celle de la protection et elle souligne à sa manière l'assurance que nous pouvons avoir de notre salut, la certitude que notre espérance n'est pas vaine et qu'elle va jusque dans l'éternité, jusque dans la présence glorieuse de Dieu. Chers amis, quel intercesseur nous avons en Jésus-Christ. Son intercession empreinte d'autorité et d'efficacité nous offre la protection spirituelle, la sanctification, l'unité et le partage de l'éternité dans la gloire de Dieu. Alors, que faire devant tout ça? Quelle doit être notre réponse? Ou quelle pourrait être notre réponse? Comment répondre à tant d'amour, à tant de générosité et à tant de grâce? J'aimerais terminer en esquissant deux pistes. En fait, deux paires, c'est-à-dire quatre attitudes, mais que je vais prendre par paire. Premièrement, l'humilité et la reconnaissance que j'associe parce qu'il me semble qu'elles vont de pair. Humilité et reconnaissance parce que le contenu de la prière de Jésus nous rappelle que tout est grâce. Tout nous est donné finalement. Que serions-nous chers frères et sœurs, si Jésus n'intercédait pas pour nous, si Jésus ne nous donnait pas ces choses que nous venons de mentionner, qu'en serait-il de notre foi si Jésus ne la soutenait pas? C'est pourquoi l'humilité et la reconnaissance sont vraiment deux réactions spontanées, normales devant tant de bonté de la part de Dieu. Si nous pouvons avoir l'assurance de notre salut, si nous pouvons avoir l'assurance d'arriver à bon port et de partager l'éternité dans la gloire de Dieu, pour ne mentionner que ces choses, c'est par Christ. C'est pas par nous. Alors bien sûr, il le fait avec nous, mais c'est lui qui est décisif. C'est par son œuvre à la croix, c'est par sa résurrection, c'est par son intercession. Et bien évidemment, ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire, que ce que nous faisons ne compte pas. Non, ce n'est pas cela. On n'est pas des pantins dans la main d'un Dieu qui a tout déterminé à l'avance. Dieu travaille avec nous. Si la part du Christ est décisive, et elle l'est, ça ne nous exonère jamais de faire notre part. Et notre part, par exemple, c'est déjà pour l'heure la reconnaissance, la louange, l'adoration, pour tout ce que nous avons reçu, pour tout ce que nous recevons et pour tout ce que nous recevrons encore. Mais notre part, c'est aussi l'humilité. Parce que si nous collaborons avec le Seigneur pour toutes ces choses, nous avons bien compris qu'elles ne viennent pas de nous fondamentalement. Et on se souvient ici de cette parole de Paul aux Corinthiens. En effet, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Chers amis, la foi est un don qui nous a été fait. Et tout ce que le Seigneur nous donne, nous l'avons reçu. Humilité donc. Souvenons-nous aussi de cet épisode entre Pierre et Jésus, où Jésus prie pour Pierre: « Simon, Simon, le Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. » Chers amis, quelle grâce! Jésus prie pour que notre foi ne disparaisse pas tout à fait quand nous sommes vraiment malmenés par les épreuves de la vie. Ce n'est pas nous qui y arrivons tout seuls. Chers amis, que serait notre vie spirituelle sans l'action de Dieu pour nous, sans la grâce de Dieu dans notre vie? Alors que Dieu nous accorde d'être toujours remplis de reconnaissance et empreints d'humilité devant la réalité de cet immense amour pour nous, qui nous a tout donné. Donc ça, c'est la première paire. Et la deuxième paire, c'est celle de la confiance et du réconfort. Parce que Jésus est un intercesseur efficace, je peux toujours compter sur lui. Son secours ne manquera jamais. Confiance aussi par rapport au pardon de mes péchés. Parce que nous avons un avocat, nous dit l'épître de Jean, auprès du Père. D'ailleurs, le rôle d'intercesseur et le rôle d'avocat sont en réalité très proches, puisque les deux consistent à faire valoir les mérites du Christ, du sacrifice, de l'œuvre expiatoire du Christ. Si les accusations de Satan sont une réalité, les accusations spirituelles sont une réalité spirituelle, nous en avons une petite fenêtre ouverte dans le livre de Job. L'intercession de Jésus est tout aussi réelle. Alors, faut-il craindre les accusations de l'accusateur des frères, comme le nomme la Bible? Nous l'avons déjà lu et l'apôtre Paul donne la réponse dans son épître aux Romains: « Qui accusera ce que Dieu a choisi ? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera ? » Donc, sous-entendu, personne n'accusera parce que Dieu justifie, Dieu applique l'œuvre, les mérites de Christ. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort, bien plus. Il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oui, la réponse, c'est personne. Personne ne pourra condamner, accuser efficacement les élus de Dieu, car Dieu les justifie. Car Dieu, en vertu de l'œuvre expiatoire de Christ, accorde cela, Christ qui intercède pour eux avec efficacité. Alors oui, confiance et réconfort sont les deux autres réponses appropriées à l'intercession de Jésus pour les siens. Que ces vérités qui sont des certitudes nous accompagnent aujourd'hui et tout au long de cette semaine qui commence. Que la certitude de l'intercession de Jésus pour nous soit une source intarissable de reconnaissance, d'humilité, de confiance et de réconfort. Amen.